sous les champs, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est L'Hérégor, chaque semaine sur l'École Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. L'Hérégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Alors, ce soir, que fait-on ?
Ben on va commencer par l'autre jour, ça fait un petit bout de temps, on vous a commencé à vous diffuser le premier épisode d'un feuilleton qui est tiré d'un livre d'un personnage qui s'appelle Jiménez, qui sur la guerre d'Espagne. Et donc là, on va vous passer le deuxième épisode qui s'appelle Vers le front d'Aragon. Voilà. Allez,
faut quand même signaler quand même pour ceux qui débarquent que nous on est donc dans les années
1936-37
voilà
en Espagne.
Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes.
Deuxième épisode, vers le front d'Aragon. Nous sommes toujours le 19 juillet 1936 à Lérida, où le coup d'État fasciste a échoué.
À Barcelone, Luis Companys, le président de la Généralité de Catalogne, institution restée en place malgré la tourmente, propose habilement aux anarchistes de partager le pouvoir, qui n'a plus, avec le camp républicain, au sein d'un comité central des milices antifascistes. Le 21 juillet, dans un climat d'urgence où la base n'est pas consultée, les hautes instances de la Confédération nationale du travail et de la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, acceptent de collaborer avec les partis bourgeois, à condition que ce comité central ait tous les pouvoirs et que la libération de l'Aragon et du reste de l'Espagne soit sa priorité. Reconduit à une sorte de front populaire antifasciste, même dans l'idée de gagner du temps et de ne pas trop effaroucher les démocraties européennes, est une tactique risquée. Elle conduit de fait, qu'on le veuille ou non, à camoufler la révolution sociale en cours. Comme l'écrira plus tard Abel Paz, un jeune libertaire de l'époque, les anarchistes mettaient le doigt dans un engrenage dangereux. Il existe de fait en Catalogne trois pouvoirs. La généralité, symbole de l'État régional, sans soutien populaire. Le comité central des milices antifascistes, contrôlé de fait par les anarchistes. des comités révolutionnaires de quartier, d'usines et de villages, spontanément mis en place par la population et contrôlant leur propre comité de défense. Nous verrons dans quelles conditions ces derniers appliqueront les conceptions du communisme libertaire exprimées lors du 4e congrès sénétiste de Saragosse en mai 1936. C'est dans l'enthousiasme général que le comité central des milices décide de former les colonnes de miliciens qui partiront le 24 juillet pour l'Aragon en vue de libérer sa capitale. La première colonne est conduite par son délégué général, Buenaventura Durruti.
Je me souviens d'un soir, comme si c'était hier, où j'allais remplacer Miguel, qui était de garde de nuit dans un immeuble administratif. J'étais à peine arrivé qu'il commençait à pleuvoir. Un orage éclata, un vrai déluge avec éclairs et tonnerre, et un vent a arraché les cornes d'un bœuf andalou. Mon ami, pressé de retrouver sa Teresita, après un salut amigos, buenas noches, s'élança dans la rue et disparut. Je m'apprêtais à fermer le portail lorsqu'une femme vint s'abriter sur le seuil. Habillée d'une vieille robe noire trempée, la tête couverte d'un fichu, je la pris pour une grand-mère et la prie de rentrer dans la loge du concierge. Là, une cheminée permettait de faire du feu. Une fois la porte fermée, je m'en fus quérir du bois à la cave. Je connaissais l'endroit pour l'avoir visité avec Miguel à l'occasion d'une autre soirée de garde. En remontant, chargé de bûches, je faillis tomber à la renverse. La grand-mère avait disparu. Une femme d'une trentaine d'années l'avait remplacée. Ses cheveux étaient coupés très courts. Elle priait à genoux, les mains jointes, et son fichu, posé sur le dossier d'une chaise, laissait tomber goutte à goutte l'eau qui l'imprégnait. J'avoue que ma première pensée fut de la mettre dehors, mais le tonnerre grondait. La pluie continuait de s'abattre avec violence. J'en eus pas le courage. Sans lui dire un mot, j'allumai le feu. Et je m'assis sur le sommier que l'on avait placé là, pour permettre à l'homme de garde de se reposer la nuit. Car une fois la porte d'entrée fermée de l'intérieur, il était impossible de l'ouvrir du dehors. Elle priait toujours. Je la regardais sans savoir quoi faire, lorsque je m'aperçus qu'elle tremblait, et que l'eau qui imbibait ses vêtements formait un petit lac autour d'elle. J'allais voir si je lui trouvais quelque chose de sec, à se mettre sur le dos. L'appartement du concierge était situé à l'entresol. Je m'y rendis en courant, et dans la penderie, j'eus la chance de trouver une jupe et un corsage, pas encore trop déchiré, ainsi que deux ou trois serviettes. C'était là le seul linge à peu près mettable. Arrivé en bas de la rampe d'escalier, je vis la porte ouverte. « Merde !» m'exclamai-je en français, « elle est partie !» Non, elle n'était pas partie. La violence de l'orage l'avait arrêtée sur le seuil. Une rafale de vent et d'eau la repoussa en arrière. Je la pris par les épaules en lui disant « Allons rentrer. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas sortir. Je vous ai trouvé de quoi vous changer. » Je refermai la porte. Une fois dans la loge, je jetai les effets que j'avais trouvés sur le sommier et je sortis à nouveau après lui avoir dit de se changer. Dans le vestibule, je sortis mon pistolet, je dégageai la balle qui était dans le canon et je bloquai le cran d'arrêt. J'avais une idée pour la mettre en confiance et la rassurer sur mes intentions. Une dizaine de minutes s'écoulèrent avant que je ne frappe à la porte. Pas de réponse. Je rentrai. Elle était encore debout, à la même place, les bras croisés sur la poitrine, tremblant comme une feuille. Pour le coup, je me fâchai. D'un bond, je fus sur elle. Je lui dégrafai le haut de sa défroque. Je la fis glisser sur ses pieds, en même temps qu'une espèce de cilice qu'elle portait à même la peau. J'empoignai une serviette et je commençai à la frictionner avec rage. Lorsque j'eus fini, elle était complètement nue. Son corps était rouge. Depuis la racine des cheveux jusqu'au doigt de pied. Allez, habillez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Que je vous viole? Lui criai-je, et en me penchant pour ramasser ses vêtements mouillés, j'ajoutai plus doucement, je n'aime pas la violence en amour. Miguel m'avait laissé sa musette. Sa mère, sachant que j'allais souvent tenir compagnie à son fils, la préparait toujours pour deux. Je la vidai de son contenu et mis sur la table une bouteille de vin, un flacon de café, du jambon. La mère avait bien fait les choses, et il y avait assez de vivres pour de bons appétits. Elle s'habilla pendant que je mettais la table. Un verre, un gobelet en tôle galvanisée. Le papier qui enveloppait la charcuterie servit de nappe et d'assiette. La jupe et le corsage que je lui avais apporté étaient trop grands pour elle, mais lui allait mieux que sa défroque noire. En mangeant, je lui dis que j'avais été élevé en France et que la femme n'avait pas été créée pour se dessécher dans un couvent, mais pour vivre, aimer, jouir. Elle écoutait en silence, les yeux baissés. Ce que je lui disais ne lui coupait pas l'appétit, car elle avalait comme si elle avait fait carême depuis un mois. Quand je lui ai assez parlé de moi, je lui demandais son nom.
Incarnation.
Voyant qu'elle répondait, je lui posais d'autres questions. J'appris ainsi qu'originaire de Manresa, et voulant rejoindre sa famille, elle allait à la gare lorsque l'orage l'avait surprise. À la fin du repas, je passais derrière elle pour prendre le café que j'avais mis à chauffer sur les braises. Et après avoir posé la petite marmite sur la table, je me penchais pour embrasser son oreille, pendant que mes mains, glissant sous ses bras, frôlaient les globes de sa poitrine. Un frisson la secoua. Je crus que c'était la peur qui la faisait trembler. Elle avait déjà mon poignard que je lui avais prêté pour couper son pain. Je sortis mon 9 mm et je le déposai doucement sur ses genoux, en lui disant « Incarnación, vous êtes jolie, trop jolie pour qu'un homme ne vous désire pas. Laissez-moi vous caresser, vous aimer. Je suis désarmé, n'ayez plus peur de moi. » De nouveau, je la caressais. J'avais écarté son corsage et je sentais dans mes paumes la chaleur et la fermeté des seins pendant que ma langue butinait le lobe de son oreille. Je m'attendais à ce qu'elle se révolte, proteste de la voix ou du geste. Rien. Elle paraissait de marbre. Puis lentement, je sentis se dresser ses tétons et ses seins durcir sous mes caresses. Sa tête s'appuya sur ma poitrine. Lorsque je me réveillais, elle dormait, sa tête au creux de mon épaule. Le bruit d'une fusillade parvint jusqu'à moi. Je m'habillai à la hâte, je raflai sur la table mes armes et je courus vers la porte, en faisant jouer la culasse de mon pistolet pour introduire une balle dans le canon. Les coups de feu s'approchaient toujours plus. Les détonations éclatèrent très près, puis ce fut le silence. J'ouvris la porte. Deux hommes gisaient sur la chaussée. D'autres arrivaient en courant.
Que s'est-il passé ?
Ce sont des phalangistes. Ils ont jeté une bombe au syndicat, mais elle n'a pas éclaté. Qu'est-ce que tu fais par ici ?
Je suis de garde. Salut. Après avoir échangé quelques mots avec les copains, je rentrai en vitesse. Je craignais qu'Incarnación, réveillée par la fusillade, ne sorte dans la rue. Le tableau n'avait en effet rien de ragoûtant, d'autant plus qu'un des deux hommes abattus n'était pas encore mort. Elle regardait justement ce qui se passait par le vide existant entre le dormant et la porte. Je remis en place le verrou et la chaîne, et je la pris dans mes bras pour la déposer sur le sommier.
Ils sont morts ?
Oui.
Toi aussi tu aurais pu être tué ?
Ça pourrait m'arriver un jour ou l'autre. C'est la révolution. Elle passa ses bras autour de mon cou, ma bouche prit ses lèvres, tout s'effaça. La peur, les dangers, et la mort qui nous guettait peut-être au tournant de la rue. Plus tard, je l'ai accompagnée à la gare et j'ai regardé le train s'éloigner. Quelques jours après, au crépuscule, je me promenais en compagnie de Miguel, Teresa et Juanita. Mon ami était au courant de mon aventure avec Incarnación. Le compañero qui m'avait remplacé ce matin-là lui avait dit que j'avais passé la nuit avec une femme, qui n'était certainement pas une camarade avant qu'elle ne me rencontre. Mais il pensait que je l'avais endoctrinée, rien qu'à voir la façon dont elle s'accrochait à mon bras. Miguel racontait ce qu'il savait à sa sœur et à Teresa, tout en se moquant de moi et de ma discrétion. Les filles riaient comme des folles et ajoutaient leurs quolibets à ceux de Miguel. Soudain, des cris s'élevèrent dans la rue.
« colonne de Ruti, la colonne de Ruti.
En effet, la colonne de Ruti, partie de Barcelone, arrivait à Lérida pour aller délivrer Saragosse.
Vive la faille,
vive les cris « Vive la faille, vive la CNT » alternaient avec les couplets des chants anarchistes. Ou l'hymne des jeunesses libertaires. Les camions chargés d'hommes et de femmes, qui mêlaient leurs cris et leurs chants à ceux de la foule, roulaient au pas. Le poing levé, nous avions regardé les camions défiler et disparaître dans la nuit qui venait de tomber. C'est alors que je pris la décision de partir le lendemain matin, avec Durruti et mes compagnons, pour Saragosse. Je le dis à un de mes amis, et ce fut un tollé général de protestation. Je n'avais pas le droit de les quitter comme ça. Je pouvais attendre 2 ou 3 jours. Miguel m'assura que lui aussi partirait avec moi, mais il lui fallait au moins 48 heures pour régler ses affaires de famille. Thérèse pleurait, car elle croyait que si je m'en allais, Miguel viendrait certainement avec moi. Elle aurait donné toutes les révolutions de l'histoire, passées et à venir, pourvu que Miguel lui restât. Elle l'aimait déjà d'un amour exclusif et absolu. Bien que le jeune homme, tout pris par son idéal de droiture et de justice, n'ait jamais essayé de profiter des sentiments de la fille. Mon ami aimait aussi la petite nonne, et il se comportait avec elle comme un frère aîné, affectueux et attentif à ses moindres désirs. Quand nous étions seuls, il me parlait de son amour, de ses rêves qu'il jugeait irréalisables à cause de la révolution. En effet, si la révolution triomphait, cela ne serait pas sans beaucoup de deuil, de privation, de souffrance. Et il se refusait, malgré mes conseils, à faire de la petite sa compagne. Juanita, après les premiers instants de surprise, s'était tue. Elle ne disait rien, mais ce fut elle qui nous mit tous d'accord en nous faisant remarquer qu'il se faisait tard. Il fallait que je me repose si je voulais partir au petit matin, et avant nous devions souper. On n'avait pas averti la mère de mon prochain départ. Ce fut Juanita qui, une fois le café servi, prit la parole pour nous annoncer sa décision. Partir avec son frère et moi. Aucun de nos arguments ne la fit fléchir, et on arrêta la discussion. C'est alors que Thérèse me demanda si je pouvais lui rendre un dernier service avant de m'en aller. Sur ma réponse affirmative, elle me demanda d'aller lui chercher un laissez-passer pour la France. Et elle ajouta :
Vous ne pensez qu'à vous battre et à mourir pour vos idées. Moi je vais rentrer au couvent, et de là-bas je prierai pour vous tous. Pardonnez-moi.
Et elle s'enfuit en courant pour cacher son chagrin dans sa chambre. Le syndicat était ouvert jour et nuit, et je partis immédiatement, espérant que le responsable du service ne soit pas trop tatillon. Juanita me rejoignit dans la rue et s'accrocha à mon bras.
Tony, sais-tu que la Niña aime mon frère ?
Eh bien.
Il ne faut pas qu'elle aille en France. Miguel est amoureux d'elle. Si elle rentre au couvent, ils seront malheureux toute leur vie.
Quand la petite m'avait parlé de se rendre en France, il m'était venu une idée. Accompagner Thérèse à la frontière, la persuader d'aller chez des amis de confiance qui habitaient les environs de Perpignan, et là attendre que son chéri vienne la chercher. J'expliquais tout cela à Juanita, tout en omettant de lui dire que je comptais retrouver le front sans passer par Lérida. Ainsi Miguel m'attendrait-il en vain et peut-être ne partirait-il pas. Juanita obtint sans difficulté un laissez-passer pour Thérèse. Elle était une vieille militante, et depuis près de 8 ans, elle participait à toutes les réunions, toutes les actions, où une femme intelligente et active pouvait se rendre. Au retour, elle me demanda si elle pouvait me poser une question indiscrète. « Vas-y toujours, lui répondis-je, on verra bien. »«
Tu aimes Thérèse ? » ?»«
Oui, je l'aime comme si c'était ma petite sœur. »«
Et moi, est-ce que tu m'aimes ?»
Toi, si tu n'étais pas la sœur de Miguel, ça ferait longtemps que tu serais ma maîtresse.
Tu crois que j'aurais accepté?
T'en meurs d'envie.
Presumido, une femme te regarde et tu crois qu'elle veut coucher avec toi. Vous êtes tous pareils.
Et elle se mit à courir en riant. Miguel nous attendait devant la porte. Maria, la mère, et Teresa étaient dans la chambre qu'elle partageait avec Juanita. Je ne pouvais pas m'endormir, et je réfléchissais aux arguments qui me serviraient à persuader la petite de renoncer au couvent et d'aller chez mes amis. Mes amis étaient un couple de pacifistes convaincus, sans enfants malgré la vingtaine d'années de vie commune. Je commençais à m'assoupir lorsque la porte de ma chambre s'ouvrit. Juanita rentra, nue, un doigt sur les lèvres, un bougeoir dans la main. Je me dressai sur le lit. « Tu es folle, que veux-tu ?» Elle posa la lampe sur la table et se coucha sur moi, en rejetant le drap qui me couvrait et en murmurant
« Cállate. Te quiero. Soy tuya. »
Elle me chevaucha. Son corps était chaud et sentait la lavande. Le soleil était déjà haut lorsque nous quittâmes notre chambre. Maria avait préparé 4 bols et des tranches de pain pour le petit déjeuner. Elle nous regarda en disant
« ¿Habéis dormido bien ?»
Puis vient m'embrasser sur les joues en ajoutant
« Ahora tengo un hijo más. »
L'embrassant à mon tour, je lui demandai « Miguel y Teresa, où sont-ils ?»
« Nous voilà. »
Miguel et la niña, comme il l'appelait, rentraient dans la cuisine en se tenant tendrement par la taille. Lui était torse nu et elle en robe de chambre. J'éclatais de rire. « Enfin, tu t'es décidé. Eh bien, t'en as mis du temps. Félicitations. » Je m'adressais à Miguel, mais ce fut la petite qui répondit, avec un accent de reproche que démentait son regard.
« C'est votre faute, oui, à Juanita d'abord, et à toi. Vous n'êtes pas discret. On entend tout de la chambre, même les soupirs. Pour ne pas vous entendre... »«
Tu es allé bavarder avec mon frère. Tu as bien fait, querida, parce qu'il est si fada qu'il t'aurait laissé rentrer en France plutôt que de te demander d'être sa compagne. » « Celui-ci, il l'est encore plus que Miguel. »«
C'est de moi qu'il s'agissait. »«
Il serait parti sans même m'embrasser. Maintenant, je ne le quitterai plus. »
Pauvre Juanita, elle ne savait pas qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Pourquoi ne l'ai-je pas laissé me suivre? Pourquoi, pendant les 3 ou 4 derniers jours que nous avons passés ensemble, l'ai-je persuadé de rester à la maison avec Miguel, que Teresa retenait? Et sa mère. La CNT recrutait des volontaires pour former une centurie qui devait s'intégrer à la colonne d'Uluti. Juanita m'accompagna au point de départ du convoi, et après un dernier baiser, je grimpai sur le camion, et nous partîmes. Je ne devais plus la revoir. Elle tomba sous les balles des avions franquistes, pendant qu'elle ramassait, avec d'autres camarades, des gerbes de blé qui traînaient encore dans les champs.
Londurruti traverse plusieurs villages aragonais, déjà libérés par les militants locaux. Le 27 juillet, elle installe son quartier général à Bujaralos. Elle est forte de 6000 hommes pour 3000 fusils seulement et reste dépourvue d'armement lourd. 9 autres colonnes anarchistes, marxistes et catalanistes la rejoindront le jour suivant et elles établiront une ligne de front nord-sud de 80 km environ. Mais l'attaque sur Saragosse prend du retard. Durruti et d'autres miliciens y tiennent beaucoup, pour des raisons stratégiques, car la prendre, c'est briser l'encerclement de ceux qui résistent au Pays Basque, en Biscaye et dans les Asturies, et aussi parce qu'il faut profiter de la victoire catalane sur les militaires insurgés avant qu'ils ne concentrent toutes leurs forces autour de la capitale de l'Aragon. Mais Dolouti est surtout très affligé de voir que dans le plus fort bastion anarchiste de l'Espagne après Barcelone, le coup d'État a réussi grâce à la traîtrise du gouverneur civil de la place et au manque de méfiance des militants locaux, pourtant très aguerris. Ses camarades sont coincés là-bas, sous-armés, et se font systématiquement liquider par l'armée. Les conditions de la perte de Saragosse et l'enlisement du front en Aragon seront d'une certaine manière symptomatiques de la façon dont une partie des militants anarchistes vont résister à l'agression des classes possédantes. Nous y reviendrons.
Je n'avais pas dormi de la nuit, indifférent aux cris et aux chants de mes compagnons de voyage. Je m'endormis pour ne me réveiller qu'à Alcaraz, où la population nous approvisionna en bottas pleines de vin. J'en profitai pour saluer des jeunes que je connaissais. Lorsque les camions s'ébranlèrent, je recommençai à dormir. Pour rester quelques minutes de plus avec Juanita, j'avais pris la dernière unité du convoi. Les autres occupants du camion étaient tous des paysans des environs de Lérida. J'en connaissais quelques-uns de vue, mais la majorité m'était inconnue. Un brutal coup de frein me réveilla. Nous étions arrivés près de Fraga, une grosse bourgade, nichée sur les bords du Rio Cinca. Des ordres fusèrent. Tout le monde descend. Nous nous déployâmes en tirailleurs, pointant nos armes vers le village que nous dominions de très haut. Mal réveillé, je suivais le mouvement. En position de tireur, à genoux, serrant la crosse de mon 9 mm. Je vis deux motards dévaler la pente vers le Pueblo et le pont qui enjambait la rivière. Je pensais qu'à cette distance, même avec un tir plongeant, mon arme était complètement inoffensive. Voilà, ils sont arrivés, ils traversent le pont, ils disparaissent. Ils reviennent, ils font des grands signes avec les bras. Tout le monde se rua vers les camions. Fraga, village aux confins de la Catalogne et de l'Aragon, célèbre partout en Espagne pour la qualité de ses figues, nous accueillit avec enthousiasme. La colonne était passée par là quelques jours auparavant, mais il restait encore des figues sèches. Chaque camion reçut sa part, avec un complément de butifarra chorizo et autres charcuteries. La nourriture était assurée. Après une brève halte, nous repartîmes. Je regardais mes compagnons de voyage, une douzaine d'hommes, entre 35 et 50 ans. Les autres étaient des jeunes, dont j'étais probablement le plus vieux. L'armement était composé de fusils de chasse et de pistolets de divers calibres. Un seul d'entre nous possédait un mousqueton, qu'il tournait et retournait dans tous les sens. Craignant qu'il ne blessât quelqu'un, je lui conseillai d'arrêter son manège. Ce qu'il fit tout de suite, en me donnant son arme et en disant
« Est-ce que tu sais te servir de ça ?»«
Ben oui, et toi ?»«
Eh non, je l'ai pris à mon oncle juste avant de partir. » Maintenant, il doit le chercher partout. Peux-tu me faire voir comment marche cet engin ?
Oui, regarde, c'est simple. Je fis jouer la culasse. Le magasin était plein, mais il n'y avait pas de cartouche dans le canon. Après avoir sorti le chargeur, je lui appris le maniement du fusil. Les autres me regardaient en écoutant les conseils que je donnais aux garçons. Quand j'eus terminé, un de ceux qui était le plus près de moi me dit
« Hey, compañero, tu eres d'Extremadura, verdad ?»
Souvent, dans mes randonnées à travers l'Espagne, on m'avait pris pour un Espagnol, en Extremadura pour un Catalan, et en Andalousie pour un Navarrais ou un Basque. Si j'avouais que j'étais étranger, alors on certifiait que j'étais français. Une fois, à Madrid, je me suis présenté à un poste de la Guardia Civil pour déclarer que j'avais perdu mes papiers, que l'on me les avait volés, car je ne trouvais plus mon portefeuille. Une demi-heure plus tard, j'étais devenu Pablo Esquera, né à Pueblo Nuevo. Domicilié Calle Princesa, Barcelone. Ces papiers ont permis à un ami recherché par la police de continuer à vivre en Espagne jusqu'au pronunciamiento. Non, je ne suis pas espagnol.
Français ?
Non plus. Italien.
Anda, los italianos son todos fascistas.
Va, les Italiens sont tous des fascistes.
Comment t'appelles-tu ?
Jiménez, Antoine. Et toi ?
Jiménez, tu es espagnol, tu nous fais marcher.
Je sortis mon passeport et la carte de la CNT. Tu sais lire ? Regarde. Sur 25 hommes, nous n'étions que deux à savoir lire. Moi et le jeune au mousqueton, lequel, après avoir jeté un coup d'œil à la carte du syndicat, se mit à rire et me tendit la main en disant
« Tu as raison. Tous ceux qui se battent à mes côtés sont mes frères, d'où qu'ils viennent. Tu t'appelles Antonio, moi je m'appelle Pedro.
Après la sienne, toutes les mains se tendirent vers moi. Arrivé à Bujaralalos, le responsable de la centurie nous dit de nous choisir des chefs de groupe. Il en fallait un pour 25 hommes. Et les élus devaient se présenter au PC de la colonne, à 20h. Les groupes furent vite constitués. Les hommes s'assemblèrent naturellement, selon leurs liens d'amitié, de voisinage ou de parenté. Le plus âgé du groupe fut nommé responsable. Le lendemain, on quitta Bujaralos pour marcher vers Pina de Ebro.
Il nous semble intéressant de présenter davantage Buenaventura Durruti. Il avait 40 ans en 1936. Cet homme aurait pu mourir 100 fois tant la vie d'ouvrier et de guerriero anarchiste qui l'a mené était intense. À une époque où les travailleurs vivaient dans des conditions extrêmes de misère et de terreur capitaliste, le parcours de Durruti, comme celui de Francisco Ascaso, de Gregorio Jover ou d'Antonio Ortiz, pour ne citer que ceux-là, est particulièrement emblématique de l'énergie et de l'esprit de solidarité insufflé par les idées anarchistes. À travers leur activisme, on peut suivre beaucoup des moments clés de la guerre sociale en Espagne. Fils d'ouvrier, comme beaucoup de militants de l'époque, Durruti est entré très jeune dans l'activité révolutionnaire en voyant son père emprisonné pour fait de grève. Travaillant dans la métallurgie, il s'opposera aux dirigeants syndicaux de l'UGT, Union Générale des Travailleurs d'Obédience Socialiste, qu'il juge trop modéré, et il participera aux actions de sabotage. Commence alors le cycle de l'action directe, de l'organisation de grèves insurrectionnelles et de la répression qui l'oblige maintes fois à quitter les lieux où il vit et travaille pour se réfugier ailleurs en Espagne et le plus souvent à l'étranger. En 1919, il adhère à la Confédération Nationale du Travail, qui subit une telle répression qu'elle agit le plus souvent dans la clandestinité depuis sa création en 1910. Dans les années 1920, la bourgeoisie organise une véritable campagne de terreur. Durruti participe à la constitution du groupe des Justicieros, qui rend coup pour coup aux pistoleros, tueurs d'ouvriers à la solde du patronat, mais aussi à un attentat avorté contre le roi, à des braquages de banques pour armer les ouvriers, à la coordination du mouvement anarchiste. Avec Francisco Ascaso, García Oliver et des militants catalans, est fondé à Barcelone le groupe Los Solidarios, qui sera avec d'autres à l'origine de la Fédération anarchiste ibérique, créée plus tard en 1927. Attentats, arrestations, exils se succèdent en France et en Amérique latine, où Durruti continue l'action directe de 1924 à 1926. Cette errance politique lui permet de rencontrer l'Ukrainien Makhno et beaucoup de libertaires de tous les pays. Il rentre en Espagne à l'avènement de la République en 1931 pour participer aux réunions, meetings et grèves presque quotidiennes. C'est l'époque où la CNT compte 1 200 000 adhérents et où l'on prépare l'insurrection. En juillet 1936, Durruti, comme d'autres compagnons de lutte, acceptera du bout des lèvres la ligne du pragmatisme antifasciste adoptée par la CNT à Barcelone. Il exprimera quelquefois ses désaccords avec cette dernière, mais en privé seulement ou dans des réunions internes.
Dans les airs, c'est à son peuple assoiffé. Je vous mènerai aux rivières où coulent le miel et le lait. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Prenez courage, patience, vous allez y arriver. Attendez. Et son peuple a trouvé la faim et la misère, et la folie et la guerre. Il était dernier. Comme Jésus sur la montagne disait aux esclaves affamés, le corps est la prison de l'âme, bientôt vous serez libérés. Et attendez, attendez, vous allez y arriver. Tendez la joue à vos ennemis, vous irez droit au paradis. Attendez. Et les esclaves ont trouvé la faim et la misère, et la folie et la guerre. Il restait fermé. Comme les bourgeois ont dit aux démolisseurs de Bastille, l'industrie va rapporter à tous bonheur, prospérité. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez tuer, mais vos gosses vont en profiter. Attendez. Et l'ouvrier a trouvé la faim et la misère, et la folie et la guerre. Il restait dernier. Ainsi on vient nous dire aujourd'hui, le socialisme n'est plus très loin. On y met la rose au poing, votez, votez pour le parti. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Ce n'est que petit à petit que les oiseaux font leur nid. Attendez. Et depuis, chaque matin, même travail, même train. À quand la prochaine guerre? Nous sommes encore bernés.
C'était le GAM, le groupe d'action musicale belge. Alors maintenant, on parlait, il parlait aussi dans sa chanson de répression. Et il y a un procès en appel à Reims jeudi prochain, le 26 à 2012, au tribunal, en appel, c'est important, c'est la cour d'appel, donc à partir de 13h. C'est une affaire qui date du 28 octobre 2010. C'était une manifestation qui était importante à Charleville-Mézières, ça se passait, il y avait eu des milliers de personnes. Il y a eu des incidents qui ont éclaté, mais suite à des provocations par les forces de police qui devaient protéger normalement le local de l'UMP. Ce que s'est-il passé? Eh bien, finalement, il y a eu ces flics qui ont lâché des grenades lacrymogènes en direction des manifestants. Les manifestants, eh bien sûr, ont riposté, ce qui est tout à fait logique. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de participants ont eu une réaction d'indignation et de colère. Et un mois et demi après, le 15 décembre 2010, au petit matin, il y a 8 personnes qui ont été interpellées à leur domicile. Ils avaient été reconnus sur une vidéosurveillance qui était dans le coin, qui d'ailleurs est toujours illégale. Et finalement, ils ont été arrêtés aussi bien à leur domicile que sur leur lieu de travail par un escadron des forces de l'ordre. Ils sont passés au mois de janvier 2011, non, février 2011, ils en ont pris plein la figure, puisque l'un d'entre eux a même été condamné à 1 an de prison, et il repasse là en appel. Donc, faut être le plus nombreux possible, jeudi, le 26, donc, à partir de 13h au tribunal de la cour d'appel de Reims. Il y a un départ groupé, d'ailleurs, de Charleville, qui viendra soutenir ces 8 personnes.
Voilà.
Bon, on va peut-être maintenant aborder un autre sujet qui nous tient à cœur, puisqu'on avait fait une émission avec un certain Mickaël, rappelez-vous, au sujet de la lutte historique contre le TGV au Pays Basque Sud. Et depuis, eh bien, il s'est passé des choses, puisque au niveau de la résistance là-bas, eh bien, ils essaient de faire un gros truc, une grosse manifestation au mois de février, avec avant des tas d'animations, qui regroupe aussi tout ce qui se passe comme infrastructure, hein, contre toutes les infrastructures qui sont prévues au Pays Basque et contre lesquelles, eh bien, la population a été dépossédée de tout, y compris d'ailleurs les municipalités. Alors voilà, je crois que Jean-Noël, tu as sous les yeux le texte.
Oui, j'ai le texte. Alors on va essayer d'évoquer quelques aspects de ce texte qui est assez long, assez vaste. Mais bon, en tout cas, l'appel se tient sous le signe d'une mobilisation sociale dans l'objectif de la paralysation des grands chantiers d'infrastructure en Guipuscoa, donc au Pays Basque. Le point d'orgue va se tenir le 4 février prochain, mais dès le mois de décembre, il y a eu des actions importantes, il y a eu des conférences, il y a eu des débats, il y a eu des rassemblements, des projections de films, etc., avec les différents protagonistes de ce mouvement social, parce que, bon, apparemment, Denis, tu parlais de l'Assemblée anti-TGV, du collectif, de différents collectifs. Il y a des collectifs qui luttent contre l'installation d'un port industriel à Passarès. J'essaye de retrouver la liste parce qu'elle est assez importante.
Il y a un incinérateur.
Un énorme incinérateur en construction.
Le métro, un métro Donosti.
Donostia.
Oui.
À Saint-Sébastien.
Saint-Sébastien. Il y a l'agrandissement de l'aéroport à Fontarabie.
Ouais.
Et puis il y a une prison, une méga prison. De Zubieta qui, entre autres, il y en a d'autres, des infrastructures en construction au Pays Basque, c'est un peu la folie au niveau des pouvoirs politiques et économiques, d'une fuite en avant au niveau de ces, comme on l'a déjà dit en Italie et comme on peut le voir aussi en France, hein, avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes par exemple, hein, tout oui. Ça c'est la même chose, et là-bas il y a une tentative de mobilisation, c'est pas une tentative, c'est sûr qu'il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont se voir. Donc.
Probablement des dizaines de milliers de personnes, puisqu'il y a deux ans, on était allé à une manifestation à Hendaye. Il y avait 30 000 personnes, on en a parlé très longuement, puisqu'au même moment, il y avait eu une très forte mobilisation en Italie. Donc, alors, ce qui est dénoncé dans cette très très longue plateforme, par exemple, c'est l'impact du TGV sur le territoire, hein, un territoire qui est évoqué par son exiguïté. En fait, au Pays Basque, on a un territoire très montagneux. On en avait souvent parlé aussi. Les territoires ruraux sont très, enfin les territoires agricoles sont très réduits parce qu'il y a des zones où l'infrastructure urbaine est très très importante. Ce qui fait que la moindre attaque au territoire coûte beaucoup de terres agricoles et de possibilités. De vie, d'autonomie. Donc ça, c'est fortement dénoncé par le mouvement. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est ainsi que, par exemple, on avait évoqué le syndicat. Il y a un syndicat agricole qui s'appelle Aîné, qui est particulièrement engagé dans cette lutte, hein, qui fait partie des collectifs impliqués. Qu'est-ce que je voyais aussi ? Ah oui, par exemple, une plateforme logistique qui est du fameux superport à Passarès envisage de détruire 180 hectares de terres agricoles. Je suis un peu enrhumé, hein, excusez-moi. Et Et donc ça dénote un peu de l'impact. Hein. Évidemment, on sait que on fait des parallèles avec ce qui se passe actuellement avec les lignes, les projets de lignes haute tension qui doivent partir du Cotentin et qui doivent s'installer à la suite de la fameuse construction de l'EPR en Normandie. Là je parle de la Normandie. C'est extrêmement destructeur de territoires et de territoires agricoles. Donc
alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que tous ces projets ont suscité, évidemment, au cours des dernières années, une forte contestation sociale là-bas, et que là, ils ont décidé de s'unir et de poser le problème du développement capitaliste qui doit être mis en cause pour eux. Ça me paraît le truc le plus significatif et important. C'est-à-dire que là, les gens qui se mobilisent, qui appellent à cette mobilisation, essayent un petit peu de globaliser. C'est-à-dire que d'habitude, on a des résistances contre tel projet, à côté, il y a une autre résistance par rapport à un autre projet. Là, il y a une tentative de globalisation, justement, de toutes ces contestations sociales, pour justement contester la société dans laquelle on vit, et en particulier dans la situation dans laquelle on est, où l'Espagne en particulier, mais aussi tous les pays européens, sont dans une phase dite de crise du capitalisme, qui se traduit en Espagne, il faut le dire, avec plus de 23% de chômeurs, ça n'empêche pas le pouvoir, qu'il soit politique ou économique, de pondre des projets complètement délirants, qui vont coûter des millions, des milliards d'euros, la fuite en avant constamment de ce système capitaliste.
Alors je donne juste une idée d'un élément du dossier. Par exemple, ils disent « Cette initiative des mouvements sociaux est née avec l'objectif d'impulser la pression et la mobilisation populaire pour obtenir la paralysation des grands chantiers d'infrastructures et pour réclamer un changement de modèle nécessaire face à la féroce campagne de pression politique, médiatique, en faveur de toutes sortes d'infrastructures, à impact écologique, économique, sociaux élevé, tels que le TGV, évidemment, l'incinérateur, le superport de Chaiquibel, la plateforme logistique de Oiartzun, Lezogainzhou, Ixqueta, le métro de Donostia, tu l'avais dit, l'agrandissement de l'aéroport de Hondarribia en Fontarabie, la macro-prison de Zubieta. Donc aussi, nous lançons un appel à la mobilisation sociale en soulignant l'importance d'exercer en ce moment la pression populaire indispensable pour paralyser ces macro-projets qui affectent et pénalisent nos territoires, et pour ouvrir une période de réflexion en faveur d'un changement de modèle de développement, dans la mesure où nous sommes conscients que ces infrastructures contestées non seulement nous affectent chacun isolément, mais encore que, dans leur globalité, elles confortent un modèle de développement qui doit être remis en cause. Donc voilà, je crois que ça c'est c'est un élément très très important, mais il y en a d'autres évidemment. Il y a un élément social de taille, puisque lorsqu'ils dénoncent l'implantation, le TGV, je crois, il a mis en œuvre à peu près 15 à 20% maximum des réalisations, hein, puisque ça a été fait de manière découpée, ça n'a pas été fait de manière ça a été fait à différents endroits stratégiques, névralgiques, dans des zones montagneuses, plutôt que au pas à pas. Et donc, en fait, 15 à 20% seulement des infrastructures, ce qui dit que c'est tout à fait paralysable, et que actuellement, le gouvernement basque refuse de remettre en cause cela. Il prévoit pour 2012 de consacrer 380 millions aux travaux de ligne TGV. Alors, les acteurs de ce document dénoncent aussi des travaux dans des qui sont réalisés dans des conditions évidemment dépassant toute forme de convention collective. Par exemple, les emplois consistaient en des contrats hors convention collective de Euskaleria au Pays Basque, avec des journées de travail de 12 heures et des conditions de travail dangereuses qui se sont soldées par la mort de nombreux travailleurs. Donc ça, évidemment, c'est le lot commun de ce genre de chantiers, creusement de tunnels, percement de tunnels, installation de lignes. Je sais pas, c'est quoi l'infrastructure qui est construite à Bahreïn, c'est ça, non? Où là, il y a eu aussi beaucoup de morts. C'est des conditions quasiment d'esclavage pour les travailleurs, quoi.
Et puis, évidemment, poser tous les problèmes liés à l'écologie, évidemment. La destruction aussi au niveau paysan, tu l'as dit. Puis, il y a le fait qu'au Pays Basque, il y a toujours des luttes. Et tous ces projets ont toujours eu des résistances, ont suscité des résistances importantes, des résistances sociales. Et là, bon, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'il y ait une unité de toutes ces luttes qui reste aujourd'hui au niveau du Pays Basque, mais il est possible, si on vous lit ces documents-là, c'est parce que ça circule tout simplement en France, mais ça circule aussi en Italie, ça circule aussi dans toute l'Europe, et il y a de plus en plus de gens qui se rencontrent, que ça soit effectivement au niveau de la lutte par rapport à Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport près de Nantes, là, qui est imposé aussi bien par les socialistes que par la droite. Il y a aussi tout ce qui se passe au niveau, tu l'as dit tout à l'heure, les lignes THT, et puis aussi au niveau des infrastructures liées au nucléaire. Donc, et puis il y a évidemment les TGV, et en particulier le TGV en Italie, qui font que toutes ces luttes aujourd'hui en Europe, il y a peut-être une petite chance qu'elles convergent dans une remise en cause plus globale, finalement, du développement actuel, du développement capitaliste qui nous est imposé.
Oui, alors, chose qu'il faut souligner, c'est que la classe politique est très souvent très, très attachée à ce modèle-là de développement. Il n'y a aucune remise en cause. Aujourd'hui, il y a des élections en France qui se préfigurent, mais à ma connaissance, je n'ai pas entendu aucune remise en cause non seulement des infrastructures, mais on pourrait parler de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pareil, puisque là, en fait, les élus, les députés locaux, les députés dans ces régions-là sont complètement, comment on pourrait dire, complètement illuminés par ces projets destructeurs. Ils se moquent royalement de la vie des populations, quoi. Alors ouais. Là, il y a une petite note dans le document. Face à cette situation, la responsabilité qui nous incombe en tant qu'organisme populaire est d'agir avec indépendance et détermination pour paralyser ces projets, oui, on l'a déjà évoqué, en impulsant la mobilisation et la contestation populaire. En tout cas, ce serait une erreur de croire que les réponses sont toutes dans les institutions, alors que les succès, si finalement ils se concrétisent, seront, selon nous, fondamentalement le fruit de la prise de conscience et de la combativité de la population. Aussi devons-nous persister dans la lutte pour la paralysation des infrastructures et des projets destructeurs, en nous impliquant dans la nécessaire transformation du modèle de développement. C'est redondant, je sais, mais bon, c'est important d'y revenir, et dans la défense essentielle de la Terre pour aboutir à un véritable changement social. Là, on a pas seulement la critique d'un projet parce qu'on veut pas que ça passe
chez soi,
mais on a aussi l'évocation d'un nouveau projet de société quelque part aussi de toucher à la notion d'utilité sociale du travail.
Alors justement, au niveau de ceux qui ont pris l'initiative de ce 4 février et de tout ce qui se passe actuellement là-bas, c'est toutes des structures de lutte, absolument toutes. Par contre, il y a des soutiens. Alors les soutiens, ce qui est assez étonnant, non, pas étonnant, non, normal. On y trouve aussi bien des syndicats basques que toute la gauche adversalée, que la CNT, que la CGT, deux syndicats anarcho-syndicalistes d'Espagne, que des groupes alternatifs, que des groupes divers. Il y en a toute une liste qui intervient en soutien. N'empêche que l'initiative, et c'est ça qui est important, ce sont des structures de lutte de toutes ces assemblées qui se battent aussi bien contre la prison, contre le TGV, contre le port, etc.
Oui, il s'agit vraiment d'une convergence très importante dont on espère qu'elle aura une résonance sur le terrain assez profonde, quoi. Voilà.
On va peut-être faire une pause musicale. Allez.
Moi, volontiers.
Ah,
parler d'une initiative qui a été prise par des gens sur Reims d'essayer de constituer un centre social autogéré. Depuis quelques semaines, un collectif donc a investi une maison, un squat donc, à l'abandon, qui appartient à la Reims Métropole. Et Reims Métropole vient d'assigner ce groupe de jeunes, et surtout l'un d'entre eux, en justice, en référé pour l'expulsion. Alors je crois que ça doit passer en référé le 10 février, si mes souvenirs sont exacts. Bon, je pense que ça serait bien, Aurémois, d'aller voir ce qui se passe sur place avant le 10 février, et puis après, pour espérer qu'après, il y a un après. Hein. Ça se trouve le long du canal, quartier de la Cerisaie. Pour les Rémois, je crois qu'il n'y a pas de problème, c'est le long du canal à la Cerisaie.
Ben moi, je voudrais avec force dénoncer cette arrogance de Reims Métropole qui, au bout de à peine quelques semaines, s'empresse d'assigner ce collectif, l'Écluse, avec force, alors que on se trouve le long du canal vers la Cerisaie, tout le monde connaît, pour les Rémoises connaissent le secteur de la Cerisaie, puisqu'il y a aussi un collectif associatif qui est tout proche, qui s'appelle, si je ne me trompe, le Temps des Cerises. C'est cette arrogance de vouloir expulser le plus vite possible via la justice, alors qu'on se trouve sur des territoires qui sont situés dans la voie verte. Hein. Alors ils aiment bien ça, la voie verte, hein. Ils en parlent depuis des décennies. Et puis des gens qui essayent de vivre déjà, de trouver un lieu de vie, un lieu de création, un lieu collectif de création. On va les emmerder immédiatement, les menacer, alors qu'on est en pleine période hivernale en plus. Mais bon, ça c'est pas le but. Je veux dire, on pourrait leur foutre la paix,
faut
quoi,
rappeler
tout simplement.
Il faut rappeler quand même que le maire de Reims, la maire de Reims, est la présidente de Reims Métropole.
Ils ont envoyé quelques éclaireurs pour prendre des informations, et là ils sont passés à l'attaque avec leur service Reims Métropole, quoi.
Le vampire, mais il ne peut pas s'effacer. Les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était Larry Gore, chaque semaine sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, mais aussi sur internet à AOC Libertaire ou Chat Noir 51. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.